Bonsoir, chers auditeurs de Radio Silence et de Radio Courtoisie, j'espère. Je suis là devant un homme, déjà un peu âgé, qui s'appelle de son nom de pèlerin Jean Lescuyer. Il a le projet d'un pèlerinage à pied extraordinaire, de Fatima à Rome et puis jusque Moscou. En partant de Fatima, le 13 septembre 2017, il arrivera, si Dieu le veut, dans environ 6 mois à destination finale. Bien sûr, vos radios l'accompagneront par des rapports hebdomadaires sur Radio Silence et si possible par plusieurs interviews directes du pèlerin par Radio Courtoisie aux lieux principaux du pèlerinage, comme Fatima, probablement Rome, Vienne, Minsk et Moscou. Éventuellement un blog spécial avec des courts messages quasiment quotidiens complétera la couverture de cet événement spirituel. Voici donc, chers auditeurs, la première interview, avant même le début du pèlerinage, encore à Paris, où le pèlerin subit un check-up de santé générale. Cher Jean Lescuyer, vous n'êtes pas un inconnu sur nos ondes. Nous vous avons déjà accompagné lors de votre pèlerinage à pied de Lourdes à Jérusalem en 1998-19. Également en passant par Rome, où vous avez pu rencontrer le pape Jean-Paul II. Avant, vous aviez déjà fait le grand pèlerinage à pied de Vézelay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Dites-nous tout d'abord, quelle est l'origine et le véritable sens de vos longs pèlerinages à pied?
Bon, c'est tout simplement la mise en œuvre, l'obéissance, la mise en œuvre de ce que le bon Dieu attend de nous, de chacun de nous, à savoir, nous sommes faits pour le louer, pour l'honorer, pour le servir. But essentiel de mon pèlerinage est là, où j'ai un but secondaire, intéressant aussi, c'est l'oubli de moi-même. Je souhaite faire des progrès dans cette spécialité. Et enfin, un but ultime, celui de favoriser, de provoquer la consécration de la Russie à la Très Sainte Vierge Marie, au cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie, qui fut demandé aux petits voyants pastoraux de Fatima par la Très Sainte Vierge Marie.
Oui, on va en reparler du sens spirituel de votre pèlerinage, mais d'abord tout concrètement. Vous allez donc pèleriner d'une façon très humble et pauvre, si j'ai bien compris, c'est-à-dire sans argent ni hôtel. Comment faites-vous pour manger et dormir?
Oui, je fais comme pendant des siècles tous les pèlerins ont fait, à savoir la pauvreté conduit à l'humilité, n'est-ce pas? Une spécialité dans laquelle j'ai besoin de m'améliorer. Évidemment, le pèlerinage est aussi un sacrifice. Je ne ferai pas de sacrifice si j'habitais à l'hôtel, si je faisais de bons casse-croûtes, alors que j'accepte de dormir où je peux, mais je ne vais pas m'exposer lorsque c'est inutile, n'est-ce pas? Si je peux dormir sous un abri d'autobus, je le fais volontiers. Si je peux dormir sous le porche d'une église, je le fais aussi. Si je trouve quelqu'un qui m'accueille, n'est-ce pas, j'accepte cet accueil. Et il y a dans la plupart des contrées que nous parcourons, il y a des pauvres qui ont des systèmes pour vivre, pour habiter, et je partage leur sort.
Donc vous êtes prêt à mendier au nom de Christ dans la rue?
Oui, mais je ne mendie pas exactement, mais je demande l'aumône. L'aumône d'un quignon de pain, l'aumône de quelque chose, d'un produit alimentaire qu'on va jeter, même si la date de péremption est dépassée.
Mais ça se passe bien, même dans par exemple, les pays arabes que vous avez traversés lors du dernier grand pèlerinage à Jérusalem.
Oui, ça s'est excellemment passé. À l'occasion de mon pèlerinage à Jérusalem, je devais traverser la Syrie, que tout le monde me suscitait de ne pas y passer. Et on me disait aussi que, surtout ne pas dire que j'étais catholique et que j'avais... que j'étais sur un itinéraire de pèlerinage catholique. Mais, alors, ma dernière ville turque importante, c'était Antioche. Et la ville syrienne suivante, c'était Alep. Et plus j'approchais d'Alep, c'était le mois de mai. Plus j'approchais d'Alep et plus je voyais des dames avec une robe bleue et une ceinture blanche. J'ai rapidement imaginé que c'était des dames qui faisaient traverser les enfants des écoles ou qui mettaient des procès-verbaux pour les stationnements interdits, mais il n'y a pas beaucoup d'automobiles. Hein. Bref, quand je suis arrivé à Alep, vers 7 heures du soir, n'est-ce pas, l'église, je crois, Saint-François, était absolument remplie. Les chapelles latérales, les travées latérales, la travée centrale, tout était plein. Et environ la moitié des fidèles qui se trouvaient là, très pieusement, étaient des dames vêtues avec ce vêtement bleu, cette ceinture blanche. Et on m'a expliqué que dans ce pays qui est religion musulmane, eh bien, pendant le mois de mai, les dames catholiques s'habillent comme la Sainte Vierge Marie. Et je trouvais que c'était extrêmement courageux, évidemment.
Et l'accueil, disons, des prêtres que vous avez rencontrés sûrement dans nos pays catholiques au début, et puis dans les terres de mission de l'Orient après, ils ont compris votre démarche ou est-ce que c'était très différent selon les prêtres que vous avez rencontrés?
Non, c'était le plus souvent, c'était spontané. Je ne me souviens que d'une anecdote un peu surprenante. C'était à Homs en Syrie. J'ai d'abord visité un monastère qui était un monastère jésuite. Le prêtre jésuite que j'ai rencontré là m'a dit qu'il ne pouvait rien pour moi, que je sois très prudent, bref, il a tiré en touche. Hein. Et il m'a conseillé de repartir à la recherche d'une opportunité. Et c'est de cette sorte que je suis arrivé chez les Syro-catholiques. Syro-catholiques magnifiques. Il y avait l'évêque syro-catholique de Homs qui habitait là, et il y avait le vicaire général de son vicaire général qui habitait également dans ce monastère. Vicaire général qui non seulement a encouragé mon pèlerinage, mais il a suivi mon pèlerinage, il a marché avec moi et prié le bon Dieu avec moi, quasiment jusqu'au krach des chevaliers. Pour ceux qui parlent avec des références géographiques, ça s'appelle El Osn, et c'est près de Talcalac. Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens que j'ai rencontré au cours de mon pèlerinage, donc que j'ai vu un usage des gens d'église à l'occasion de ce pèlerinage.
Oui, je me souviens que parfois ça se passait quand même assez mal. Je me rappelle un soir de Noël que vous nous avez rapporté d'Italie qu'un prêtre qui a préféré d'écouter Bach et de ne pas interrompre cette émission au lieu de vous accueillir, et vous avez fini par dormir misérablement sur un banc à la gare ce soir de Noël. Mais durant tous ces rencontres, parfois avec des gens extraordinaires comme Jean-Paul II, ça doit avoir fait des souvenirs inoubliables pour vous. Avec Jean-Paul II, justement, comment ça s'est passé?
Excellent. Mais je reviens sur votre anecdote de la nuit de Noël dans la ville de Massa. Massa qui est à une dizaine de kilomètres de Carrare. Hein, et donc je ne me suis plaint de rien. Je me suis souvenu que 2000 ans avant, n'est-ce pas, le souverain des rois de la terre et du ciel, tout-puissant et éternel, avait eu le même sort que moi. Il n'avait pas habité dans une gare de chemin de fer, mais dans une grotte, dans une étable. Bon, alors, ma rencontre avec le pape Jean-Paul II, fut intéressante. Je vais résumer et vous dire que le pape a accordé un long moment à notre conversation. Il était curieux d'un tas de choses, il m'a posé de nombreuses questions et il a même saisi mon bâton de pèlerin et il l'a essayé pendant quelques mètres pour voir comment il marchait avec cet instrument. Et il m'a dit, écoutez, je vais... Alors, je lui avais précisé que mon plan était d'entrer dans Jérusalem le 15 juillet 1999, à midi moins le quart. Midi moins le quart parce que le 15 juillet 1099, à midi moins le quart, Godefroy de Bouillon et Tancrède étaient entrés dans Jérusalem par la porte de Jaffa. Et donc, le pape Jean-Paul II m'a dit qu'il notait sur son calendrier le 15 juillet 1999, midi moins le quart, et que lorsque j'entrerai dans Jérusalem, il ne pensait qu'il marchait à mes côtés et qu'il entrait dans Jérusalem avec moi.
Il voulait presque marcher avec vous, si j'avais bien compris. Non,
c'est possible, mais il avait beaucoup de choses. Et vous vous souvenez que c'était l'année sainte, hein, et que ils avaient pensé à célébrer le 900e anniversaire de l'entrée des croisés dans Jérusalem. Hein, mais ils avaient dû finalement, il fallait trier, hein, et ils avaient dû choisir trois lieux. Et je crois me souvenir qu'un de ces trois lieux est un lieu où je suis passé à l'occasion de mon pèlerinage, c'est Monte Sant'Angelo, hein, sur le au sommet du Gargano, hein, où Saint Michel, l'archange, était apparu à l'évêque de Cipote, Monte Sant'Angelo contient en effet cette grotte dans laquelle Saint Michel est apparu, mais contient aussi de nombreuses installations, hein, et le clergé qui est Monte Sant'Angelo est essentiellement constitué par des prêtres polonais. Donc, je pensais que le pape Jean-Paul II avait dans l'idée aussi d'encourager et de féliciter l'Église polonaise.
Oui, j'ai l'impression que votre visite chez Jean-Paul II l'a quand même impressionné, parce que quelques mois plus tard seulement, il voulait être pèlerin personnellement, avec un bourdon d'ailleurs, en montant vers le monastère Sainte-Catherine au pied du mont Sinaï. Et je pense un peu ça vous revient peut-être. Ça l'a impressionné de voir un pèlerin de cette envergure. Bon, pour venir un peu plus concret, nous autres auditeurs, pauvres chrétiens, qui voudrions peut-être même vous accompagner, un peu, peut-être pas seulement spirituellement, vous voulez absolument marcher tout seul ou accepteriez-vous un co-pèlerin de temps à autre?
J'accueillerai très volontiers un co-pèlerin, même plusieurs, et nous pouvons faire un pèlerinage collectif, et je suis bien convaincu que plus il serait grand et priant, et plus le bon Dieu serait, la très sainte Vierge Marie serait satisfait. J'accueillerai très volontiers chacun des candidats à ce pèlerinage, vous savez, comme quand Daesh recrute des combattants, hein, qui sont des pèlerins à l'envers, en quelque sorte, hein, ils exigent que ceux qui étaient catholiques se convertissent à la religion musulmane, je le comprends, hein, mais nous sommes catholiques et donc je fixerai volontiers pour règle que les candidats au pèlerinage que nous allons entreprendre se convertissent au catholicisme. Et je rappelle que nous pourrions nous placer sous la protection de Sainte Jeanne d'Arc, n'est-ce pas ? Et Sainte Jeanne d'Arc qui a réussi des manœuvres absolument souveraines et exceptionnelles, hein, et que les experts mettaient en doute. Et les experts prévoyaient des dizaines d'années de combats pour chasser l'envahisseur. Hein. Mais Jeanne d'Arc avait dans sa musette de combattante la catholicité. Et donc, elle suggérait aux combattants dont elle avait la responsabilité se confesser, d'assister à la messe, de communier, et après d'aller au combat. Et le combat était victorieux.
Oui, alors je retiens volontiers votre proposition d'accepter l'un ou l'autre pèlerin de temps à autre, ou peut-être même tout le chemin, s'il y a des candidats, pendant ce pèlerinage qui se fait quand même comme but principal de soutenir la demande de la Sainte Vierge au pape et aux évêques de consacrer la Russie au cœur immaculé de la Sainte Vierge. Eh bien, dès qu'il approche l'une ou l'autre région, et si vous êtes intéressé, vous avez donc qu'à faire signe à nous, c'est-à-dire à Radio Silence, de façon à vous mettre en contact avec le pèlerin, et puis vous voyez facilement avec lui, et qui a un portable sur lui, hein, l'heure du rendez-vous, et de marcher, pèleriner avec lui. Une dernière question. Ce pèlerinage à Moscou est peut-être le premier pèlerinage de l'histoire qui se fait de Fatima à Moscou. Est-ce que c'est juste?
Bon, je suis incapable de répondre à cette question, mais il me semble éminemment nécessaire. Il y a aujourd'hui plus de 100 ans que la Très Sainte Vierge Marie a demandé aux enfants de Fatima dire au pape qu'elle souhaitait, qu'elle demandait la consécration de la Russie, hein, et que si ce n'était pas fait, de grands fléaux tomberaient sur la France et le monde. Hein, et nous savons que rapidement, après l'élection, après l'apparition, n'est-ce pas, et la demande de la Très Sainte Vierge, rapidement, donc, il y a eu la révolution bolchevique qui, sans doute, à n'en pas douter, fut le plus grand fléau de guerriers de l'humanité. Mais enfin, en disant cela, je suis invité à corriger parce que même si il y a eu un grand nombre de victimes à l'occasion de cette révolution bolchevique, la quantité des victimes est inférieure à la quantité des victimes de l'avortement sous apparence de bien.
Je dirais aussi qu'il y a la révolution elle-même, la grande révolution française, qui, longtemps avant les bolcheviks, ont donné le ton et ont montré comment on peut lutter contre le royaume de Dieu, déjà ici sur Terre. Et vous y prenez là vraiment le bœuf par les cornes, en allant dans l'ombre de la Sainte Vierge contre ces mauvais esprit de nos époques. Alors, cher Jean Lesculier, pour cette première interview, un grand merci. On vous souhaite tout bien du ciel et de la terre pour votre long pèlerinage à pied. Je rappelle les stations principales, Fatima, probablement Barcelone, ensuite Nice, etc., jusqu'à Rome, ensuite retour en remontant la péninsule jusqu'à Vienne, et puis Minsk, et puis c'est déjà Varsovie aussi, voilà. En total, ça devrait faire quelque chose comme 5000 kilomètres, et selon ce que le pèlerin nous a dit, à une vitesse qu'il a normalement de 1000 kilomètres par mois, vous pouvez calculer vous-même où il se trouvera à peu près, si Dieu le veut, à telle ou telle époque, pour vous faciliter de vous joindre à lui. Merci Jean, et à la prochaine fois. Au revoir, et que Dieu vous garde. Thank you.